Voilà, comme je vous l'ai annoncé il y a 2 minutes, je vous présente Sir Anne Lécu, dominicain de la présentation, et qui est médecin à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Elle en dira peut-être un peu plus. Je la remercie vraiment de tout cœur. Elle va vraiment nous aider à entrer dans cette méditation du carême avec la miséricorde, naître à la miséricorde. Vous avez repéré ce Christ de Chartres qui est sur l'affiche et le tract, c'est la naissance de l'homme et ça veut dire que nous naissons à la miséricorde, mais je ne veux pas complètement marcher sur ces brisées. Nous naissons depuis l'origine à la miséricorde. Merci, Anna.
Merci beaucoup, Henri. Merci d'être là, mes frères et mes sœurs. C'est une très grande joie pour moi de m'associer à vous tous pour méditer sur la miséricorde de Dieu. Et vraiment, je remercie Henri Aubert de permettre à une sœur dominicaine de prêcher ainsi chez ses voisins jésuites. Ce n'est pas si ordinaire. Et puisque le thème est de naître à la miséricorde, je vous invite à vivre ces 40 jours de carême comme les 40 semaines qu'il faut à une femme pour mener à terme une grossesse. 40 jours pour naître. Alors je voudrais, pour commencer, vous lire le cantique d'Isaïe au chapitre 26 que l'on chante dans le livre d'office au Laude, le mardi de la troisième semaine. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera, la nation juste qui se garde fidèle. Ouvrez les portes. Méditer sur la miséricorde de Dieu, c'est ouvrir grandes nos portes et nos fenêtres pour y faire entrer de l'air frais, de la joie, parce que l'Esprit de Dieu nous relève. Il nous rend libres, il nous rend forts. Et je voudrais donner ce ton à ces 6 temps de rencontre. La miséricorde de Dieu n'est pas une démarche compassionnelle confite de bons sentiments. Elle est la présence de Dieu lui-même qui se lie d'amitié avec l'homme jusqu'à ne plus le quitter. Elle est la joie de Dieu qui s'enfonce dans la nuit jusqu'aux entrailles de la terre pour saisir Adam par la main et peut-être même par les cheveux et le relever pour qu'il vive. Le mot miséricorde est un mot double, construit sur miseria et cordia. Cordia, vous le savez, c'est le cœur, et miseria, la douleur, l'affliction, la détresse, la misère. La tentation serait grande de faire de la miséricorde ce mouvement de Dieu qui se pencherait sur la misère de l'homme. J'aimerais, dans les méditations de ces mardis, aller dans une toute autre direction. La misère dont il est question dans le mot miséricorde n'est pas d'abord celle de l'homme, mais la misère que Dieu prend sur lui pour relever l'homme. Et c'est donc une belle et une bonne nouvelle. Dès la création, de la crèche à la croix, Dieu s'installe à hauteur d'homme, afin que l'homme puisse s'adresser à lui, face à face, comme un ami parle à son ami. Et souvenez-vous, dès le jardin de la Genèse, Dieu marche dans le jardin, à la même hauteur que l'homme. Alors mon premier temps, ce sera justement celui-là, ouvrez les portes, la porte de la miséricorde. Ouvrez les portes, nous dit Isaïe. Oui, commençons par le commencement et ouvrons la porte. Une porte ouverte, cela permet d'entrer et de sortir. La porte de la miséricorde, ouverte le 8 décembre, non seulement permet d'entrer dans la démarche, mais aussi elle nous permet de sortir pour annoncer cette miséricorde au monde. La miséricorde de Dieu n'est pas pour nous seuls. Elle n'est pas seulement ce temps favorable offert à son Église. Elle est pour tous. C'est pourquoi elle requiert nos mains, nos mots, notre cœur, notre intelligence, notre art pour être annoncée dehors, dans la rue. et dans ce monde. Le 1er septembre 2015, le pape François adresse une lettre à Mgr Fizit Chelda, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, à l'approche du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Il y écrit ceci. Le jubilé a toujours constitué l'opportunité d'une grande amnistie. Et écoutez bien, il s'adresse aux aumôniers de prison. Dans les chapelles des prisons, ces personnes qui attendent une grande amnistie pourront obtenir l'indulgence. Et chaque fois qu'elles passeront par la porte de leur cellule, en adressant leurs pensées et leurs prières au Père, puisse ce geste signifier pour elles le passage de la porte sainte. Car la miséricorde de Dieu, capable de transformer les cœurs, est également en mesure de transformer les barreaux en expérience de liberté. Le pape, ni plus ni moins, dit ceci, que les personnes détenues qui passeront sous la porte de leur cellule en pensant à notre Seigneur passeront sous une porte sainte. C'est une image extraordinairement magnifique et particulièrement osée. En effet, la porte d'une cellule, en tout cas celle que je connais, c'est une porte fermée, à double tour, dont l'habitant n'a pas la clé. La personne qui habite une cellule de prison ne peut pas sortir quand elle le veut. Elle peut craindre pour sa vie, en cas de malaise, en cas d'incendie, quand il y a le feu dans une cellule à côté. Quelqu'un d'autre a les clés, elle ne peut pas sortir. Alors certes, il y a de multiples formes d'enfermement, dans la maladie, dans la solitude, dans le vieillissement. Il y a les prisons volontaires que nous nous forgeons. Et pourtant, la prison reste une figure unique. Celles et ceux qui sont là sont en attente d'un jugement, ou bien déjà jugés ou condamnés. Autrement dit, ils sont la figure du coupable. Or, en mourant sur une croix, crucifié entre deux larrons, entre deux coupables, c'est au coupable que le Christ accepte d'être identifié. Il a voulu être confondu avec eux, avec nous, afin que nous ne soyons plus seuls avec nos fautes. Jamais le Christ n'accuse quiconque, jamais il ne condamne. Et à la femme adultère, au contraire, il répond « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Mais il partage la condamnation. Sans porter de jugement sur quiconque, il supporte lui seul le poids du jugement. Alors je crois que nous pouvons lire autrement la fin de la dernière lettre aux sept églises, au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Je vous lis le verset 20 de ce chapitre 3. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Je crois que Dieu est dans nos vies comme un détenu qui frappe et qui n'a pas la clé. La porte de la miséricorde, c'est aussi à nous de l'ouvrir pour qu'il puisse entrer. Alors avec le Christ, tout lieu de mort peut devenir autre chose que la mort. Et lui ouvrir, c'est faire de l'enfermement un lieu de liberté. Parce qu'être libre, finalement, c'est être avec le Christ. Il me semble que la porte de la miséricorde par excellence, c'est la croix. Et ce sera mon second temps. Cette porte ouvre le ciel qui plus jamais ne se refermera. Parce qu'à la mort de Jésus, souvenez-vous, le voile du temple se déchire. Et ce déchirement fait écho au déchirement du ciel lors du baptême de Jésus. Les cieux s'ouvrent, nous dit Matthieu au chapitre 3, verset 16, comme en écho à ce cri d'Isaïe, Ah mon Dieu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées. Au chapitre 63, verset 19 d'Isaïe. Eh bien voilà, à l'heure où le Christ meurt en croix, le ciel est déchiré, le voile du temple est déchiré, le corps du Christ est déchiré, mais l'amour de Dieu n'est pas déchiré. La miséricorde est la toile de fond de cet amour qui se fait pauvre lui-même jusqu'à prendre la toute dernière place pour ramener un par un tous ceux qui l'attendaient depuis les origines du monde. Le nouveau baptisé de Pâques, peut-être y en a-t-il parmi vous des futurs baptisés de Pâques, le nouveau baptisé de Pâques va entrer dans l'existence chrétienne par la porte de la croix. C'est une porte étroite, nous rappelle l'Évangile. Mais non pas parce que Dieu serait un juge sévère. C'est une porte étroite, car comme le faisait un jour remarquer un enfant du catéchisme dans un village où j'habitais, parce que pour passer, il faut être petit. C'est une porte étroite, en forme de croix, parce que pour y passer, il faut avoir les bras ouverts, qui ne retiennent rien, qui sont tout prêts à accueillir ce qui vient. C'est une porte étroite, mais ce n'est pas une porte triste. Ce n'est pas une porte de cimetière. C'est une porte de palais qui mène à la salle du banquet. C'est une porte étroite qui s'ouvre chaque fois que nous traçons sur notre corps le signe de la croix. En effet, lorsque nous faisons le signe de croix, c'est notre corps que nous marquons du nom de chacune des trois personnes de la Trinité, notre corps fragile, parfois douloureux, marqué par le nom de notre Dieu et marqué par la croix, notre corps que Dieu a choisi pour en faire sa maison. Je vous cite Maurice Zundel. Le Père ne se regarde pas, il n'est qu'un regard vers le Fils, qui n'est qu'un regard vers le Père. Et le Père et le Fils ne s'idolâtrent pas, ils ne sont qu'un élan vers le Saint-Esprit qui respire le Père et le Fils. Éternellement, la Trinité est le dépouillement de Dieu. Alors je vous propose ensemble d'entrer avec notre Dieu dans le dépouillement de Dieu. Au nom du Père. Lorsque nous marquons notre corps du nom du Père, ce que nous confessons tout d'abord, c'est un mystère et un secret. Un secret entre chacun de nous et le Père. La relation que nous tissons avec notre Dieu est toujours singulière, unique, car chacun d'entre nous est absolument unique. Chacun a une manière unique de croire, une manière unique d'aimer et une manière d'espérer unique. Et chaque jour que Dieu fait, nous pouvons à nouveau tisser avec notre Dieu une relation unique. Quoi que nous ayons fait hier, aujourd'hui est neuf, et Dieu n'est pas le Dieu d'hier, mais le Dieu d'aujourd'hui. La voix du Père est relayée à deux reprises dans les évangiles synoptiques, lors du baptême de Jésus et lors de la transfiguration. Et deux fois dans l'évangile de Matthieu, cette voix du Père annonce « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Cette parole, je crois, est pour chacun de nous. Non seulement elle désigne le Christ, mais elle nous désigne, chacun de nous, comme fils bien-aimé, dès lors que Jésus a pris notre peau. Bien-aimé, c'est notre nom pour le Père. Et c'est cela que nous confessons en marquant de nos fronts le nom du Père. Le dépouillement du Père, c'est de donner tout ce qu'il a. il n'existe que de donner et de se donner. C'est pourquoi il est toute joie, car comme le dit un jour une sœur bénédictine il y a fort longtemps, j'avais 17 ans, une sœur de Valognes, la joie, c'est ce qui reste quand on a tout donné. Voilà le secret du Père que nous confessons en marquant de son nom nos fronts. Sa richesse n'est ni sa puissance, ni son pouvoir, ni sa domination. Sa seule richesse, tout ce que le Père possède, c'est le don qu'il fait de lui-même au Fils, en qui désormais nous sommes associés comme fils bien-aimés, destinataire de tout l'amour du Père. Infinie pauvreté de Dieu, qui n'a rien en propre, puisqu'il donne tout. Infinie fragilité de Dieu, qui ne peut rien reprendre de ce qu'il a donné. La joie du Père, en vérité, c'est de ne regretter aucune de nos existences. Au nom du Fils. Le mouvement qui va du Père au Fils est un mouvement vertical de descente du haut en bas. Manière de nous rappeler que la vie du Fils est ce mouvement de descente qui choisit de quitter Dieu pour venir rejoindre la condition humaine. L'Épître aux Philippiens a ce mot très fort. Il s'est vidé de lui-même. Vous savez, c'est le cantique aux Philippiens. Dieu n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, prenant la condition humaine. C'est ce mouvement de descente que nous imprimons sur notre corps lorsque nous passons du nom du Père au nom du Fils, afin de signifier qu'il nous faut, nous aussi, descendre en nous pour trouver Dieu. Car le ciel où se trouve Dieu est aussi caché au plus profond de la terre, au plus profond de nos entrailles. Et nous verrons qu'un des mots hébreux pour dire la miséricorde est le mot « entrailles ». Oui, le ciel est parfois caché au cœur de nos rencontres les plus banales. Si le ciel où se trouve Dieu, c'est là où règnent l'amour, la foi et l'espérance, il se pourrait qu'on le trouve au plus près du corps, dans la nourriture et le tact, dans le soin, dans la caresse, dans la beauté du geste et du vêtement, dans la jouissance de l'amour quand il est respectueux et des mots quand ils honorent une pensée qui rend libre. Oui, c'est au plus près du corps, dans tout ce qui nous tient entre nous et fait de ce monde un monde habitable, que se déploie le ciel. La miséricorde de Dieu, le lieu où tremble son cœur au rythme du nôtre, c'est vers le très bas, non pas vers le très haut, ou plutôt le très haut et vers le très bas. Et c'est en notre corps, très bas, que le Fils, dans son dépouillement, a déposé sa vie. Nous signer ainsi du nom du Fils, c'est progressivement comprendre que Dieu a besoin que nous veillions sur lui. Cela nous détourne de nous préoccuper de nous-mêmes, cela nous détourne de penser à notre propre salut, car notre salut, finalement, c'est précisément d'être délivré de la pensée et du souci de nous-mêmes. En mettant sa vie entre nos mains, Jésus nous détourne de nous-mêmes, puisque c'est de sa vie à lui et de la vie des autres, c'est la même chose, dont nous avons à nous préoccuper. Le signe de la croix au nom du Fils, c'est nous rappeler l'urgence de prendre soin de lui, le Fils de Dieu, qui a remis sa vie entre nos mains. Car comme le disait Etil Soum, dans la vie bouleversée, cette prière du 12 juillet 1942, « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis rien garantir d'avance. Une seule chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Dieu. Maurice Zundel, encore lui, dit quelque chose de similaire. « Aimer Dieu, dit-il, c'est vouloir le protéger contre nous-mêmes. » Voilà le cœur de l'Évangile, je crois. Non pas se sauver soi-même, mais tenter de sauver Dieu en nous. De le sauver de nos ténèbres, de nos lâchetés et de nos peurs. Prendre soin de lui, comme Marie et Joseph qui s'enfuient en Égypte pour le protéger d'Hérode. Parce que je crois que la joie du Fils, c'est être un des nôtres. Au nom du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, le défenseur promis par Jésus à l'heure de sa passion, c'est la présence du Christ ressuscité parmi nous et en nous. C'est l'Esprit du ressuscité. C'est la vie même du Père qui a relevé le Fils de la mort et qui nous entraîne chez Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous invoquons le nom de l'Esprit sur notre corps, nous le marquons de cette vie éternelle et définitive qui respire en nous, qui prie en nous quand nous ne savons pas prier, qui désire en nous la vie. L'Esprit Saint est la vie éternelle en nous. Cette vie qui n'est pas pour après la mort, mais qui est l'inscription éternelle en Dieu de ce qui en nous est vivant. On ne part pas au ciel comme si on allait quelque part. Il faut que nos vies deviennent le ciel. Il faut que notre vie goûte aujourd'hui, dès maintenant, la vie éternelle. Siméon, le nouveau théologien, qui vécut au Xe siècle, chantre de Dieu par ses hymnes, disait ceci: que dise adieu à la vie éternelle celui qui ne l'a pas rencontrée ici-bas? Si Dieu est pur dépouillement, c'est parce qu'il est pure relation, et le nom de ce mouvement, c'est l'Esprit. Tracer sur nos corps le nom de l'Esprit, c'est vouloir vivre et transmettre cette vie dense, belle, grave, joyeuse, éternellement aimée de Dieu en nous. C'est faire un pied de nez à la mort qui ne peut tuer en nous que ce qui est déjà mort. C'est inscrire le dépouillement sous le sceau de la joie. Je crois que l'Esprit est le nom de la joie de Dieu en nous. Amen, qu'il en soit ainsi. La croix est la porte de l'éternelle miséricorde de Dieu. Le signe de la croix est le vêtement dont nous pouvons nous revêtir chaque matin, chaque midi, chaque soir, quelle que soit l'heure du jour. Un vêtement de roi qui peut habiller chacun des pauvres que nous sommes. C'est revêtir Dieu que le tracer sur nos blessures et sur nos peurs, revêtir sa royauté. Si notre pauvreté est la demeure choisie par le Très-Haut pour habiter avec nous, en nous revêtant du dépouillement de Dieu, nous devenons avec lui des princes. À l'heure de la mort, lorsque nous serons enveloppés de nuit, Dieu le Père lui-même viendra s'agenouiller auprès de nous et nous border de celle que François d'Assise appelait notre sœur la nuit. Cette nuit qui enveloppa son fils dans un grand linceul blanc, comme dans le poème de Peggy, le porche du mystère de la deuxième vertu. Je vous en lis quelques versets. C'est alors aux nuits que tu vins, et dans un grand linceul tu ensevelis le centenier et ses hommes romains, la Vierge et les saintes femmes, et cette montagne et cette vallée sur qui le soir descendait et mon peuple d'Israël, et les pécheurs, et ensemble celui qui mourait, qui était mort pour eux. Et les hommes de Joseph d'Arimathée qui déjà s'approchaient, portant le linceul blanc. Lui, le père, qui avait les mains liées à la mort du fils unique, puisqu'il n'avait pu ni voulu empêcher l'amour d'aimer. Lui, le père, dont les mains sont liées tant que nous sommes à l'œuvre, tant que nous sommes en vie, liées par son amour pour nous, qui n'est que l'unique amour qu'il a pour son fils, cet amour qui fait de chacun de nous des bien-aimés, c'est lui, le père, qui à l'heure de notre mort aura les mains libres pour nous délier de tout ce qui nous entrave encore, de tout ce qui est mort et qui a été défait par la mort. Le signe de la croix est une porte qui nous fait entrer dans le dépouillement de Dieu. Porche royal par lequel nous sommes invités à sortir de nous-mêmes pour ouvrir les yeux, les oreilles, les mains, les bras, le cœur, l'intelligence sur ce monde pour l'aimer. Dire « Amen », c'est dire « Me voici, Seigneur. Aujourd'hui, je vais tâcher de t'aider à ne pas t'éteindre en moi. » Eh bien, cela, je vous propose que ce soit pour nous la première œuvre de miséricorde que nous tentions de faire. Aider Dieu à ce qu'il ne s'éteigne pas en nous. Et pour clore cette première méditation, je vous propose de chanter ensemble « In manus tuas pater, commendo spiritum meum » ce refrain de Thésée « En tes mains, Père, je remets mon esprit. » In manus tuas pater, commendo spiritum meum. In manus tuas pater, commendo spiritum meum. In manus
Merci à Anne Lécu de nous avoir ainsi permis de contempler la miséricorde du Père, du Fils et de l'Esprit. Voilà, maintenant bonne route et à la semaine prochaine. Sachez que ce soir, la sœur reprendra la même méditation. Ce sera ainsi chaque semaine. Bon appétit, bonne soirée.